Las conferències de Radio Languedoc. Aquest cop, l'enseigné Albert Arnaud, professeur à l'Université du Temps Libre à Montpellier, nous parle de Jaume Ier d'Aragon. Une conférence enregistrée en février de 2008 à la Bibliothèque municipale de Metz.
Donc je voudrais remercier les gens qui m'accueillent ce soir, c'est-à-dire la Bibliothèque de Metz, Madame Montoy, et le Cercle Occitan de Metz qui a organisé la soirée. Et également, je vous remercie à tous d'être venus pour m'écouter, surtout ceux qui m'écoutent toutes les semaines. Je pense qu'ils ont du courage pour venir m'écouter ce soir. Bon. Je remercie aussi Francis d'avoir bien voulu faire la session, de bien avoir voulu m'aider avec les projections de quelques photos qui sont tirées du livre dont on parlera tout à l'heure, sur Jacques Ier. Donc, je voudrais peut-être vous remercier aussi au nom de la mémoire de ce roi d'Aragon, Jacques Ier, notre compatriote, pourtant, puisqu'il est né à Montpellier, et pratiquement inconnu dans la région. Et je crois que c'est peut-être un devoir qu'on avait envers lui de quand même de célébrer un peu sa mémoire et de le faire connaître, ce que nous avons voulu faire tous ici, tous ceux qui avaient organisé la soirée. Son anniversaire a été célébré en assez grande pompe, peut-être pas comme il aurait dû l'être, à Montpellier le samedi 2 février, il y a 10 jours donc, parce que c'était la date anniversaire, le 800e anniversaire de sa naissance, à Montpellier même. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu le célébrer et c'est pour ça que ce soir nous sommes là. Alors ce Jacques Ier que j'ai moi fortement envie d'appeler plutôt Jaume, puisqu'il est à la fois catalan et occitan, et que jamais de sa vie, sans doute, quelqu'un l'a appelé Jacques. Donc ça serait peut-être plus vrai de l'appeler Jaume. Il mérite, je pense, l'hommage qu'on lui rend un peu partout en ce moment, enfin partout, dans notre région en ce moment, parce que c'est sans doute un des grands personnages, d'abord de l'histoire d'Espagne, de l'histoire de l'Espagne, des Espagnes, il faudrait dire peut-être, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'Espagne quand il règne, il y a l'Aragon, il y a la Castille, etc. C'est un grand personnage aussi de l'histoire de la Reconquista, comme disent les Espagnols, il a joué un rôle très important là-dedans, et aussi, c'est un grand personnage de l'histoire de la Méditerranée. Et là, nous sommes directement touchés, de la Méditerranée occidentale, et en même temps, c'est un grand personnage de notre région, puisque, vous allez voir, il a quand même eu un rôle très important pour Montpellier et pour les environs. Alors, voilà donc le personnage. Il est, si on peut dire, écrivain. Quoique, on ne soit pas tout à fait sûr qu'il ait écrit le livre. Mais enfin, c'est lui qui a, en effet, écrit ou fait écrire sous sa dictée ce livre que vous avez exposé là et qui est là aussi, qui s'appelle « Le livre des faits », qu'il a écrit en catalan, mais qui vient d'être édité en français, traduit et édité en français par Monsieur et Madame Vinas, Robert Vinas et sa femme, de Perpignan, Agnès et Robert Vinas de Perpignan. C'est grâce à ce livre d'ailleurs que je peux vous parler ce soir un peu plus de Jacques Ier, parce que évidemment, il donne beaucoup de renseignements là-dedans, parce que le livre est à la fois très complet, puisqu'il est très illustré, toutes les illustrations qui vont être données sont tirées de ce livre, et en même temps qu'il donne des éclairages particuliers, des études particulières sur différents points tout au long du livre, en plus du texte originel du roi. Alors voilà, cette situation d'un grand personnage totalement inconnu, ceux qui suivent un peu mes cours à l'UTL savent que c'est une situation que je déplore assez souvent, et que d'autres aussi déplorent, c'est la situation d'une façon générale, des régions périphériques de France par rapport à l'histoire centrale de la France, comme elle est faite. Du moment qu'il n'a pas eu un rôle dans l'histoire de France, pratiquement, il est inconnu. Enfin, et d'autant pas qu'il n'a pas eu un rôle bien déterminé, bien défini dans l'histoire de France, comme on a voulu la faire après. C'est le cas de Clovis, ou de Vercingétorix, ou de Charlemagne, ou des autres. Là, ils ont leur place bien placée. Quelqu'un comme ça, bon, on n'en parle pas, pratiquement pas. Alors, ce personnage, pourtant, est assez intéressant. Et lui-même, d'ailleurs, se juge très intéressant. Il a raison, d'ailleurs. Il le dit, d'ailleurs, dans son livre, puisque sa naissance est marquée, au début, par, dit-il, le destin. Il ne dit pas le destin, lui, il dit, c'est l'œuvre de Dieu. Car il est très chrétien, comme beaucoup de gens de son époque, lui particulièrement. Et c'est l'œuvre de Dieu, dit-il. Et alors il voit sa naissance marquée par un double miracle. C'est assez... comme il réussit, il quiche un peu quand même. Parce que, bon, vous allez voir le miracle que c'est. Enfin, c'est pas le miracle, il dit pas miracle, mais il dit c'est quand même Dieu qui a voulu que je sois là. Dieu l'a voulu de deux façons. Première façon, il remonte à la génération des grands-parents. Alors, la génération des grands-parents, sa grand-mère... Eh bien, elle semblait destinée par Dieu à être sa grand-mère parce qu'elle devait épouser son grand-père paternel, et puis non, ça n'a pas marché, mais elle a épousé le grand-père maternel. Au total, lui, il est quand même arrivé. Bon, ça semble un peu curieux comme histoire. Il faut dire que cette dame vient du fond de la Méditerranée. Elle vient de Constantinople. C'est une princesse byzantine. Alors, à l'époque, tout ce qui vient de Constantinople, de Byzance, c'est un monde merveilleux. Byzance est la plus grande ville autour de la Méditerranée, c'est l'héritière de Rome, c'est une ville extraordinaire que les croisés, d'ailleurs, à peu près à la même époque où va naître Jacques Ier, les croisés européens ont pris et pillé complètement parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait des richesses. Mais quelques temps avant, dans cette princesse byzantine qui s'appelle, qui a le joli nom de Eudoxie, c'est-à-dire la bonne règle, la règle bien droite, vous voyez que c'est un bonheur à donner. Et alors, cette Eudoxie est venue pour se marier dans l'Occident méditerranéen. Elle devait épouser un prince d'Aragon, de la maison d'Aragon, et puis finalement, quand elle est arrivée, les voyages étaient longs à l'époque, il paraît que le prince était déjà marié, donc on a cherché à la marier. Et on a trouvé le seigneur de Montpellier, Guillaume VIII. Bon. Jacques Ier, lui, Jaume, quand il en parle, il dit qu'elle devait épouser son grand-père, qui était roi d'Aragon, et qu'elle était la fille de l'empereur de Constantinople. Bon, quand on regarde les choses de près, les historiens disent, bon, ou il a voulu enjoliver un peu la chose, ou alors il ne savait pas trop. En réalité, ce n'est pas le roi d'Aragon qu'elle devait épouser, c'est son cousin, le comte de Provence, et elle n'était pas la fille de l'empereur, mais elle était la petite nièce. Bon, on va passer quand même dessus. Hein. Elle s'appelait Eudoxie Comnène. Elle n'avait aucun rapport avec la ville de Sète. Mais c'était, non, c'est comme ça qu'elle nous est arrivée, non ? Et qu'elle a épousé Guillaume VIII. Elle l'a épousé, c'est quand même intéressant, je pense. C'est pour ça que je remonte un peu à cette histoire-là. Parce qu'on comprend quand même qu'une dame d'un tel niveau, quand même, elle est de la famille impériale de Byzance, si elle épouse finalement le seigneur de Montpellier, c'est que le seigneur de Montpellier, c'est quand même quelque chose d'important. Et la seigneurie de Montpellier est importante, non pas tellement en surface, quoiqu'elle s'étende de Montpellier un petit peu à l'est, pas trop, mais surtout vers le sud jusqu'à la mer, Mireval, Frontignan, tout ça, jusqu'au bord de l'étang de Thau, et puis en remontant sur la vallée de l'Hérault, c'est-à-dire le château d'Aumelas, par exemple, faisait partie, était un des points forts de la seigneurie, également le Pouget. Pollan aussi, il y a eu un certain moment, ils ont même passé l'Hérault et mis la main là-dessus, bon, un certain nombre de châteaux comme ça tout autour, de fiefs, tout autour. Et surtout, la ville de Montpellier est très riche parce qu'elle fait un commerce important, commerce par le port de Latte, à l'époque c'est un port de mer, à travers la Méditerranée. Et c'est cette richesse qui fait la puissance de la seigneurie de Montpellier. Alors, ces deux époux, Guillaume et Eudoxie, n'auront pas un mariage très heureux, c'est souvent le cas, vous verrez par la suite aussi, et ils auront une fille. c'est Marie, Marie de Montpellier, la fameuse Marie de Montpellier dont on parle souvent. Et la pauvre Eudoxie, même si elle a été chantée par les troubadours, c'est les troubadours venant à la cour de Guillaume VIII, car la cour était importante, chantait l'impératrice Eudoxie, comme il l'appelait, hein, celui qui deviendra après évêque de Toulouse au moment de la croisade, et qui s'appelle Folquet, on l'appelait, Folquet de Marseille. Dit, il l'appelle l'impératrice Eudoxie. Bon, je crois qu'il faisait sa cour un peu trop, de façon un peu trop appuyée, il me semble. Mais la pauvre, finalement, elle est renvoyée par son mari et elle va finir sa vie au couvent d'Aniane. Hein. C'était pourtant un couvent d'hommes, mais on aurait dû réserver une petite place à côté. Hein, je ne veux pas entrer dans les détails. C'est finalement Marie. Et voilà, le premier miracle pour son petit-fils, Jaume, c'était que cette dame soit venue de très loin pour finalement arriver à lui donner naissance. Et le deuxième, ça va être avec ses parents. Marie de Montpellier va se marier avec Pierre d'Aragon, avec le roi Pierre d'Aragon, Pierre II d'Aragon. Là aussi, le mariage, il n'est pas tellement d'amour. Hein. On voit très bien que le roi d'Aragon est très intéressé par Montpellier plus que par Marie. Et on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on n'a pas de portrait ni de l'un ni de l'autre, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, la pauvre Marie, qui n'a pas eu une vie très heureuse, elle en est déjà à son... Elle a 24 ans et elle en est à son troisième mariage. Elle avait commencé jeune, à 12 ans, elle était commencée à être mariée, donc on pouvait commencer. En tout cas, quand elle est épousée par Pierre II, Pierre II l'épouse dans un but très politique. Il veut la seigneurie de Montpellier. Et au moment où il l'épouse, il se fait reconnaître la seigneurie de Montpellier. Ça donnera toujours des problèmes pour savoir à qui, si Marie en a aussi la co-seigneurie, en quelque sorte, on ne sait pas trop. En tout cas, Pierre, finalement, visait la seigneurie de Montpellier parce que c'était très important pour lui. Alors, qui c'est Pierre d'Aragon? Quand on en parle, bon, on se dit le roi d'Aragon, mais il faut bien voir les choses. Le roi d'Aragon, c'est règne sur l'Aragon, c'est-à-dire l'arrière-pays catalan, si vous voulez, derrière le pays catalan, la moyenne vallée de l'Ebre, autour de Saragosse, hein, c'est le domaine d'Aragon, mais surtout sur tous les pays catalans qui sont au-devant, c'est-à-dire la Catalogne actuelle. Catalogne complète, on peut dire, au nord et au sud des Pyrénées, c'est-à-dire aussi bien Roussillon, Cerdagne, que ce qu'on appelle le Principat, c'est-à-dire toute la Catalogne au sud des Pyrénées. C'est son domaine, hein. C'est le domaine de sa famille. Là aussi, c'est par mariage, d'ailleurs, qu'ils l'ont eu. C'est parce que son arrière-grand-père a épousé la fille du roi d'Aragon, et donc il est devenu roi d'Aragon. Le titre est prestigieux pour l'Aragon, mais finalement c'est la Catalogne qui est la plus peuplée, la plus riche, la plus belle. D'ailleurs, Pierre dira toujours, Jaume dira toujours qu'il préfère de beaucoup les Catalans aux Aragonais. C'est pas gentil pour les Aragonais, mais enfin, il le disait couramment. Ces deux époux, finalement, ne s'entendent pas trop. Marie a vite donné une fille à Pierre. Mais ce n'est pas ce qu'on attend. On attend un garçon. Et on commence à s'inquiéter qu'il n'y ait pas de garçon qui arrive. Qui s'inquiète? Mais d'abord, les consuls de Montpellier. Les bourgeois qui dirigent la ville de Montpellier. Car c'est eux qui ont en grande partie fait le mariage. Ils ont profité de l'occasion pour faire signer aux deux époux qui se mariaient une charte des libertés communales. Qui fait que ce sont eux, en réalité, qui dirigent la ville maintenant. Sous la haute autorité et en moyennant quelques impôts qu'on va verser au seigneur, mais c'est eux qui vont diriger la ville. Et ils ont bien envie de garder ce seigneur. Un seigneur puissant, le roi d'Aragon, comte de Barcelone, et lointain. Il ne sera pas là tout le temps, c'est très bien. Il vaut mieux qu'il ne soit pas là. Mais qu'il soit puissant aussi, car il pourra protéger les marchands de Montpellier quand ils ont des affaires en Méditerranée. Quand les bateaux sont attaqués par des pirates, quand des marchands sont enlevés, la puissance du roi d'Aragon pourra les aider. Alors, voilà ce qu'ils ont voulu. Seulement, ils aimeraient bien qu'il y ait une suite, qu'il y ait un fils qui arrive. Or, de fils, il n'en vient pas. Il n'en vient pas parce que le roi Pierre déserte la couche de sa femme. Alors, comme elle n'est pas la Vierge Marie, elle ne peut pas en faire un tout seul. Alors, finalement... Ils vont, ils vont monter une espèce de rencontre. Alors, on ne sait pas trop, bien sûr. Puis, Jean me raconte tout ça dans son livre. Il raconte que quand son père débarque à Lattes, un jour, il arrivait de la mer, il arrivait en... Et puis Marie, qui était restée au pays, elle était au château de Mireval. Les consuls de Montpellier se débrouillent et insistent pour que le roi aille au château de Mireval retrouver sa femme. Ça ne lui plaisait pas trop. Il en avait d'autres en vue. Pierre était un grand type, ressemblant, ça faisait un peu, il faisait un peu l'allure du roi François Ier. Enfin, lui, on le connaît, on le voit dans nos livres d'histoire. C'est un type dont on a mesuré, à peu près d'après les restes qu'on a retrouvés, on a mesuré la taille à environ presque 2 mètres. Pour l'époque, c'était extravagant. Hein. C'est un grand chevalier, superbe, grand guerrier, etc. Et grand amateur de femmes. Il est toujours en train de courir après. Hein. Son fils le dit d'ailleurs, il dit, il était trop homme de dame. Homme de dame, oui, c'est ça, il dit. Il était trop homme de dame. Hein. Nous, on dirait homme à femme, lui, il dit homme. Et alors, le roi se fait tirer l'oreille, et finalement, il y est allé. C'est tout ce que dit son fils. Mais là, la légende dit, a inventé une histoire beaucoup plus belle. Hein. Alors, elle n'est peut-être pas vraie, mais quand la légende est belle, autant la dire. Hein. Ce qu'on a appelé la Gioia Lengana, la nuit de la tromperie. On dit que Pierre poursuivait une dame de la suite de la reine, et que cette dame ne voulait pas trop céder. On lui dit... pour la bonne cause, il faudrait peut-être faire un effort. Et puis, il faut arranger les choses. Vous allez donner rendez-vous au roi, la nuit, dans une chambre obscure. Et puis, on dit à Marie, et vous, vous allez prendre la place. Marie, au début, refuse, bien sûr, son honneur de reine, son honneur de dame, d'épouse même, c'est quand même un peu... Bon. Finalement, devant les objections du consul, des personnages qui entourent, etc., eh bien, elle y va. Et, ma foi, ça se passe bien, puisque Pierre, ou alors il est beau joueur, le matin, Pierre, le roi Pierre, dit « Ah, c'était merveilleux, la nuit était formidable. » Et il ramène son épouse à Montpellier, en croupe sur son cheval. Il est accueilli par la population de Montpellier avec des cris de joie, d'acclamations, la musique, tout ça, on danse autour du cheval, etc. Et la légende dit que on inventera ensuite, on fera ensuite la danse du chevalet en souvenir de cette retour triomphal de Pierre et de Marie à Montpellier. En tout cas, triomphal ou pas, 9 mois après, l'héritier arrive. Et dans la nuit du 1er au 2 février 1208, donc il y a exactement 800 ans, naît un garçon. Enfin, c'était alors là vraiment le signe de Dieu. Hein, Dieu avait mis son doigt et et finalement l'enfant naît. Hein, alors troisième presque signe de Dieu aussi que Jaume cite pour lui donner un prénom. On se demande quel prénom on va donner. Marie a une idée, elle dit allumer 12 cierges. Alors on allume 12 cierges, je pense que c'est des petits cierges. On allume 12 cierges et puis on dit, on les fait brûler et on va donner à chaque cierge le nom d'un apôtre du Christ. Et le dernier qui s'éteindra, ça sera celui-là, ça sera le prénom qu'on va donner à l'enfant. Le dernier qui s'éteint, c'est celui de Jacques. Il avait des chances, il y en avait deux Jacques dans le coup, alors il y avait plus de chances de l'avoir. Et aussi, c'est quand même le grand saint de l'Espagne, hein, Santiago, Saint-Jacques de Compostelle. C'est le grand saint de la Reconquista espagnole, donc ça va bien tomber pour la suite. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. C'est comme ça qu'il aurait été appelé. En effet, il n'y a pas de Jacques, ni dans la famille paternelle, ni dans la famille maternelle. C'est très étonnant. À l'époque, en général, on donnait toujours les mêmes prénoms. Ça revenait toujours. Il y avait des Alphonse tant qu'on voulait. Il y avait des Guillaume de l'autre côté tant qu'on voulait. Ils s'appelaient tous Guillaume à Montpellier. Mais il n'y avait pas de Jacques. Alors, ce garçon qui naît là va être présenté. On est le 2 février, jour de la Chandeleur. Lui, il dit jour de Notre-Dame de la Chandeleur. Car il va être toute sa vie sous la protection de la Vierge. Et sa mère demande, moi ça m'a complètement soufflé, sa mère demande, il vient de naître, au mois de février, et sa mère demande qu'on l'apporte dans la journée même à l'église de Notre-Dame-des-Tables. C'est pas très loin, il est né dans Montpellier. Enfin, quand même, en plein mois de février, un enfant qui vient de naître, ça me semble un peu surprenant. Alors on va l'amener à l'église de Notre-Dame-des-Tables pour le présenter à la Vierge Noire. On vénère dans la Notre-Dame-des-Tables, on vénère une statue de la Vierge Noire ramenée par un seigneur, un autre Guillain précédent, de la croisade de Palestine. Et là, on va l'amener, donc le présenter, parce que la fête de la Chandeleur, c'est aussi la fête de la présentation de Jésus au Temple. Et donc, vous voyez, on va le présenter dans les églises de Montpellier. On le présente aussi, tant qu'on y est, pourquoi pas, on va à l'église Saint-Firmin, qui est à côté, qui est l'église principale de Montpellier à l'époque, et on va présenter également l'enfant. Donc, il va être, on peut dire, sous la protection particulière de la Vierge, pour laquelle il aura toujours une vénération très, très marquée, hein, qui est aussi la patronne de Montpellier. Cette église de Notre-Dame-des-Tables, c'est autour de cette église que s'est fait la richesse de Montpellier. Notre-Dame-des-Tables, c'est en réalité les tables des changeurs de monnaie, hein, qui sont installées autour de l'église. Et donc, c'est le centre du commerce et de la banque à Montpellier. Et la ville de Montpellier a gardé cette Vierge dans ses armes qui, il y a quelque temps encore, moi je me souviens, était encore peinte sur les autobus de la ville et un peu partout. Et il y avait la Vierge au milieu. Et donc, sa mère s'appelant Marie d'ailleurs, ça tombe assez bien aussi. Donc, le voilà, il aura, tout au long de sa vie, d'ailleurs il le dit lui-même, il parle de 2 milliers d'églises qu'il a dédiées à la Vierge. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les églises vont être dédiées à la Vierge. Et le personnage, donc, le voilà ici, un peu âgé, plus âgé bien sûr. C'est le portrait qui est sur le livre, hein, ici, que nous avons pris, que j'ai voulu prendre, parce que c'est le portrait qui est peut-être le plus expressif. Maintenant, comme toujours, à cette époque-là, les portraits, on ne les connaît pas. Celui-ci est un portrait datant du XVe siècle, c'est-à-dire environ 150 ans après sa mort. Alors on l'a fait d'après les récits, d'après ce qu'on a dit. Il a quand même l'avantage d'être assez vivant, d'être assez individualisé. Parce que la plupart des portraits de personnages de l'époque, 12e, 13e siècle, sont très idéalisés et tous sur le même modèle. C'est-à-dire que les visages sont lisses, les cheveux sont toujours longs et blonds. Quand il s'agit d'un roi, c'est toujours un personnage blanc. Ce qui est un peu étonnant, on se dit comment cet homme, dont toute la famille était espagnole, occitane et grecque, comment il pouvait être blond. Or, en réalité, il l'était. Ça, on a les témoignages de l'époque, il était d'un blond roux, dit tout le monde, et c'est bien ce qu'on voit là-dessus. Et le personnage a un aspect assez rêveur, et on dirait un peu méditatif, qui est assez étonnant, je trouve, pour un homme qu'on a appelé Jacques le Conquérant. C'est quand même un peu particulier. Alors, ce début de vie qui semble marqué par l'effet qui entourait un berceau, hein, c'est tout un tas de signes prémonitoires du Christ, etc., va tout d'un coup tourner au cauchemar. Hein, parce que le pays va entrer dans une période terrible. On est en 1208. Hein. Or, 15 jours avant qu'il naisse, 15 jours avant, 16 ou 17, le 15 janvier 1208, sur le bord du Rhône, à côté de Saint-Gilles-du-Gard, a eu lieu un meurtre qui va déclencher une catastrophe. C'est le meurtre, l'assassinat du légat du pape, Pierre de Castelnau, qui est assassiné, on ne sait pas trop par qui, mais on pense, ou en tout cas on le dira, que c'est un homme qui est de la suite du comte de Toulouse. Et Pierre de Castelnau, qui est venu au nom du pape pour essayer de régler le problème de l'hérésie cathare, on voit là évidemment une volonté de lutter contre l'autorité du pape qui s'est mis là. Le pape, aussitôt, il paraît qu'il est resté 3 jours sans pouvoir parler. Quand il a su la nouvelle, il a été complètement estomaqué et il n'a pas pu parler. Le pape Innocent III va déclencher la croisade contre les terres du comte de Toulouse et de tous ses vassaux, c'est-à-dire contre notre région. La croisade, évidemment, va mettre du temps à se mettre en place, mais au printemps de 1209, c'est-à-dire donc l'année suivante, Jaume a un an. Et à ce moment-là, on voit la croisade se préparer et une armée terrible descendre depuis le nord de la France par la vallée du Rhône et arriver jusqu'à notre région. L'armée va passer d'ailleurs au-devant de Montpellier, elle va camper au-devant de Montpellier. Il ne sera fait aucun mal à la ville, parce que la ville de Montpellier est sous la suzeraineté de l'évêque de Maguelone. C'est-à-dire que le seigneur, tout en étant seigneur, rend hommage à l'évêque de Maguelone, et même, parfois, ils ont même poussé plus haut, ils en ont fait hommage aussi au pape. Et la ville est réputée vouée à la Vierge et très catholique. C'est le cas aussi de Pierre, le père de Jaume. Il est appelé Pierre le catholique. Il est allé, la même année où il s'est marié, il est allé en 1204, il est allé à Rome pour se faire couronner roi d'Aragon par le pape, et il a fait hommage de ses terres au pape. Voilà des gens très bien, on ne va pas y toucher. Par contre, au-devant de Montpellier, est venu le pauvre Raymond Trincavel, Raymond Roger Trincavel, vicomte de Béziers et de Carcassonne, est venu, et il a essayé de parlementer, parce qu'il sait que c'est contre lui que tout va tomber. Et parce que le comte de Toulouse, lui, s'est assez adroitement tiré un peu de tout ça, en faisant amende honorable à Saint-Gilles, devant les légats du pape, et en demandant à ce qu'on l'admette dans la croisade, comme guerrier, croisé. Donc on ne peut pas faire de mal à ces terres, puisque toutes les terres des croisés sont sous la protection de l'Église. Et Trincavel voudrait faire pareil, mais Trincavel, on ne l'accepte pas. D'ailleurs, le pape a dit dans une lettre qu'on a retrouvée, bien précise, que d'abord on va essayer de taper sur Trincavel, sur les plus petits, puis ensuite on tapera sur le plus gros, sur Toulouse. Et c'est comme ça que ça va se passer. Trincavel, qui est d'ailleurs a épousé la sœur, la demi-sœur de Marie de Montpellier, la fille du mariage suivant, retourne à vitesse à Béziers, vous connaissez l'histoire sans doute, quelques temps après, le 22 juillet, a lieu le grand massacre de Béziers. Ce qu'on appelle le grand mazel, l'assassinat et l'incendie de toute la ville. Et 15 jours après, le siège de Carcassonne, où finalement la ville va être prise et où Simon de Montfort, pour la première fois, va se montrer en grappe. Jusque-là, il n'était pas un des chefs de la croisade, il se montre en grappe. Trincavel va être enfermé dans une prison de la cité de Carcassonne où on le laissera mourir, sans doute. On ne le tue pas, mais on le laisse mourir de dysenterie, de tout ce qu'on peut avoir, sans le soigner, il va mourir au mois de novembre. Voilà l'atmosphère qui entoure le jeune enfant, c'est peut-être pas évidemment le conte de fées qu'on avait au début. Hein. Et pour compléter tout ça, son père, Pierre II, voulant se mettre bien quand même avec Montfort, avec qui il a eu quelques petites difficultés, va lui donner l'enfant, Jaume, en otage. C'était courant à l'époque, hein, c'était pas comme aujourd'hui un sujet de protestation journalistique. C'était très courant, c'était un échange entre des seigneurs, c'était une garantie, c'est un gage. Il avait l'enfant, donc l'autre ne pouvait pas trop se révolter. Ça n'empêchera pas d'ailleurs Pierre de se battre contre Montfort. En tout cas, l'enfant est donné, il a 3 ans et demi. Pour justifier ça, on le fiance à la fille de Montfort, qui a à peu près le même âge. Et Montfort l'amène à Carcassonne, puisqu'il a pris possession de Carcassonne. Or, la situation, vous voyez, de ce pauvre garçon semble quand même assez délicate. Et puis alors, on en arrive à l'année terrible pour lui, même si ça ne rend pas trop compte à son âge, c'est 1213. 1213, il est né, je vous rappelle, 1208, il a 5 ans. Et cette année-là, son père et sa mère sont complètement séparés. Hein. Pierre a essayé de prendre la seigneurie et de renvoyer Marie, de ne plus vouloir comme femme. Elle s'est cramponnée comme elle a pu. Et finalement, elle est partie à Rome pour demander la justice au pape. Et c'est à Rome qu'elle va mourir au mois d'avril 1213. Et la même année, en septembre 1213, Pierre, le roi d'Aragon, le père de Jaume, meurt à la bataille de Murette, où il était venu prêter main forte aux Occitans et au comte de Toulouse, son beau-frère. dans la bataille contre Montfort. Là aussi, la mort de Pierre est sujette un peu à caution, parce qu'il était quand même très rare que, quand on avait un personnage, un roi ou un grand seigneur, dans le combat, il était très rare qu'on le tue. En général, si on pouvait l'avoir, on le prenait et on en tirait une grosse rançon. Or, on sait que Pierre II a crié dans le combat « Je suis le roi d'Aragon ». Et non pas pour se protéger, mais pour au contraire attirer, entraîner ses troupes contre les ennemis. Et à ce moment-là, des chevaliers de Montfort l'ont tué. Ils l'ont tué parce que Pierre II tué, ça permettait d'arranger mieux les choses dans la région. Ce n'est pas notre propos aujourd'hui, mais enfin, on peut le voir comme ça. Montfort, d'ailleurs, tient l'enfant et ne veut pas le rendre. Il faut que le pape se mette en colère, que le pape envoie un légat, un autre, un nouveau légat, le cardinal Pierre de Bénévent, pour exiger que Montfort rende l'enfant à sa famille paternelle. Les seigneurs aragonais, la famille royale d'Aragon, redemandent l'enfant, puisque c'est l'héritier. Et il le demande, ils l'obtiennent finalement au mois d'avril de l'année suivante, donc, à Narbonne, en présence de l'archevêque, du légat du pape et tout, Montfort va rendre l'enfant à sa famille. Il sera amené alors en Aragon et Catalogne, et il est confié au... alors, peut-être on aurait pu voir... excusez-moi, emporté par les lèvres, je n'ai pas passé. Je voulais vous montrer la très belle Vierge de Fontfroide, hein, qui se trouve au musée Languedocien, et qui fait partie de l'exposition qui est montrée, justement, dans cette idée que la Vierge va être pour l'objet de la vénération de Jaume tout au long de sa vie. Donc, la voilà, elle est date de, exactement, enfin, pas une année près, elle est de l'époque de Jaume Ier. Elle date de cette époque-là. Elle était de l'abbaye de Fontfroide, et elle a été rachetée par... quelqu'un qui l'a donné ensuite au musée Languedocien de Montpellier. Elle est tout à fait typique de l'époque et de la piété mariale qui monte au XIIIe siècle, très forte. Alors qu'auparavant, on parlait surtout du Christ, de Dieu, mais pas tellement de la Vierge. La piété envers la Vierge va commencer à monter à ce moment-là. Je voulais montrer aussi le sceau de la ville de Montpellier à l'époque, des consuls de Montpellier, où on voit la Vierge toujours avec l'enfant en haut, hein, et en bas, la ville de Montpellier comme elle est représentée, c'est-à-dire l'église de Notre-Dame-des-Tables, qui a été détruite finalement à la Révolution. Hein, mais en réalité, elle avait été beaucoup détruite avant déjà, en partie par les protestants, etc. Vieille église romane, un peu faite de briques et de brocs, parce qu'on avait ajouté des endroits, on avait ajouté des chapelles, etc. Enfin, on voit très bien l'église romane avec sa coupole. Et puis, la commune clôture, très importante, le mur, c'était les bourgeois de Montpellier avaient obtenu du seigneur le droit d'englober dans un grand mur la ville de Montpellier et la petite partie qui dépendait de l'évêque de Maguelone directement, qu'on appelait Montpellierette, et qui se trouvait un peu au-dessus de l'esplanade, vous voyez, dans le quartier du musée Fabre. Voilà. Donc on a englobé dans les mêmes remparts, et les bourgeois de Montpellier sont chargés d'entretenir la muraille et de la garder. Hein, donc c'est à eux qu'incombe le soin de garder la ville. Alors, sur leur sceau, ils ont voulu montrer justement, c'est le sceau qui authentifie tous les documents de la ville, que la protection de la Vierge et la commune clôture, c'est pour eux le signe de leur puissance. Donc, voilà l'exemple, si vous voulez, l'image de la seigneurie de Montpellier et de la puissance des consuls, comme elle se dégageait. Le passage qui représente la bataille de Muret, la mort du roi Pierre, hein, enluminure de l'époque, où on voit, comme sur beaucoup de bourgeois, on peut remarquer le jeu des couleurs sur des chevaux et des blancs, noirs, rouges, etc. Les couleurs sont un peu arbitraires, hein, dans ces enluminures-là. Et voilà le château de Monceau, où les Templiers vont amener le jeune roi John. C'est le château, il est à peu près à la limite entre l'Aragon et la Catalogne, et c'est un des points principaux de l'ordre du Temple en Aragon. Le grand maître du Temple, qui s'appelle Guillaume de Montredon, a reçu la garde de l'enfant, ce qui correspondait d'ailleurs au vœu de sa mère, puisque Marie de Montpellier avait dit dans son testament qu'elle souhaitait que son fils soit remis et soit élevé par les chevaliers du Temple. Donc il sera au château de Monceau. On dirait que c'est presque une spécialité des Templiers d'élever les enfants royaux et de grande noblesse, puisque on y trouve Jacques va y retrouver son cousin, qui est le comte de Provence, qui est tout jeune aussi, et qui se trouvera là, élevé également par les Templiers. Seulement celui-là, au bout de quelques temps, comme il est un peu plus âgé que Jean, mais au bout de quelques temps, il y en a assez, il s'en va tout seul. Il fuit des Templiers. On y trouvera aussi, au même château sera élevé également, un des vicomtes de Béarn, qui est d'origine catalane d'ailleurs, c'est la famille des Montcada, qui sera élevé là aussi. Donc vous voyez, on voit très bien l'aspect fortifié puissant du château de Monceau et de la puissance des Templiers. Les Templiers et les Hospitaliers, chevaliers et hospitaliers, vont jouer pendant tout le règne de Jaume Ier, vont jouer un rôle très très important dans toutes ces conquêtes. Ils seront toujours là et ils seront toujours dotés de grands bénéfices à chaque fois qu'on aura des conquêtes différentes. Alors, le voilà donc enfant élevé par les Templiers, et très vite, à cette époque-là, vous savez, très vite, on était considéré comme un homme. À 11-12 ans, Jaume est à cheval avec son épée et il dirige ses troupes. À 12 ans, il sera marié. Non, pardon, à 13 ans, il est marié. À 14 ans, il est père. Très vite. On vit très vite, parce que souvent, on ne vit pas tard. La chance de Jaume, c'est qu'il vivra très vieux. Il arrive à presque 70 ans. À l'époque, c'était très, très rare. Alors, quand il devient roi, eh bien, il a tout simplement d'abord à s'imposer. Parce que le temps qu'il était tout jeune, on pensait que chacun s'en était donné de son côté. Les seigneurs, les villes, tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Même les gens de sa propre famille, même ses oncles et cousins qui, normalement, auraient dû quand même l'épauler, avaient repris des libertés, avaient repris des terres pour eux, et il va falloir qu'ils s'imposent. Avec un certain nombre de gens, il va arriver à s'imposer. Et on le voit ici, donc, en majesté, on peut dire. Là, il est déjà un peu plus âgé, il y a quelques années après. Il n'est pas tellement vieux. Il a, normalement, il a 21, 22 ans. Donc, c'est pas, il paraît beaucoup plus. L'essentiel ici, c'est de voir le pouvoir, la majesté retrouvée. Il est sur son trône. Il a d'un côté les ecclésiastiques, les évêques et les abbés mitrés, les grandes abbayes catalanes, et il a de l'autre côté les seigneurs laïcs, dont certains, moi je vois une sorte de ressemblance, dont certains doivent être ses parents. Le comte Sanche, qui était comte de Roussillon et qui a assuré la régence pendant l'enfance de Jaume, et d'autres derrière qu'on voit apparaître. Alors, on a ici, c'est intéressant, je crois, ces portraits, parce qu'ils ont, contrairement à la plupart des portraits de l'époque, un certain caractère individualisé. La tête du roi n'est pas la même que celle des évêques, par exemple, qui sont à côté. Il y a quand même une certaine individualisation qui nous donne un certain intérêt. Mais comme souvent, les peintures qu'on voit, les enluminures qu'on voit, datent d'après. En réalité, ici, c'est du siècle suivant, c'est du XIVe siècle. Et donc, ça a été fait un peu... Est-ce que le peintre a voulu donner un certain caractère au personnage? On ne sait pas si c'est le visage exact que pouvait avoir Jean, mais il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on retrouve certains traits dans la momie du roi qui a été retrouvée. C'est-à-dire qu'il y a une forme de visage, il y a une barbe et tout ça, qui ressemble un peu. Donc, il a fait d'après peut-être des souvenirs plus précis. Alors, il reprend assez facilement, en se battant, il reprend ses terres, ses pouvoirs, et on le voit là, dominant l'assemblée et imposant son autorité. Il est marié, je vous dis, à 13 ans, et avec une princesse de Castille, Léonore de Castille, qui est d'ailleurs la sœur de Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis. Et ces deux filles, il faut peut-être se rappeler, pour nous occitans, sont les petites filles d'Éléonore d'Aquitaine. C'est-à-dire Aliénor d'Aquitaine, bon, tout le monde a entendu parler d'elle. Or, elles ont un certain caractère. Blanche de Castille le montrera bien, et Éléonore, la femme de John, ne le montrera pas trop. D'ailleurs, il ne lui laisse pas le temps, le pauvre. Quelques années après, trois ans après, trois ou quatre ans après, il la renvoie déjà, il en a assez, il n'en veut plus. Il a envie lui aussi d'autres femmes. Il tient ça de son père. Il se lance comme jeune roi bouillant qui a envie de réaliser plein de choses. Il se lance dans les conquêtes. Et aussitôt. Alors si en Espagne même, sur la péninsule, c'est assez difficile. Il y a la Castille qui est là aussi et qui veut mettre sa place, prendre sa place au soleil espagnol. Mais il y a aussi les terres musulmanes qui sont pas mal. Et là, alors il va se lancer dans les conquêtes. Ça va être d'abord, et c'est ce que nous voyons, on avait vu sur l'autre précédemment, on voyait, c'était au moment où ils décidaient, d'attaquer la puissance sarrasine au château bourg fortifié que vous connaissez peut-être de Peniscola. Peniscola, cette espèce de bourg qui s'avance dans la mer, là, comme ça, va être attaqué par Pierre à ce moment-là. Il est tout jeune, il n'a pas trop pris son temps, il n'a pas trop calculé, et ça sera un échec. Aussi, il n'en parle pas dans son livre. Parce qu'en général, dans son livre, il parle de ce qui est bien, de ce qui a réussi. Ce qui n'a pas marché, il ne le dit pas. C'est bien comme ça peut marcher. Hein. Donc, on est en 1225, là, vous voyez. Donc, il est quand même assez jeune à ce moment-là. Par contre, quelques années après, il va se lancer à la conquête de Majorque. Et alors là, ça sera une grande expédition qu'il va tenter. Il rassemble bien ses forces, là il a compris ce qu'il fallait faire. Il rassemble bien toutes ses forces, il va traverser la mer avec un certain nombre de bateaux, il fait appel à tout le monde, les gens de Montpellier lui en envoient, même des gens de Marseille viennent avec des bateaux. Lui-même traversera, il fera la traversée entre Salou et Majorque. Il va la faire sur un bateau de Montpellier, sur une galère, on disait galée à l'époque, de Montpellier. Donc il va ensuite se lancer. Je passerai rapidement sur les conquêtes. Dans mon esprit, je voudrais plutôt insister sur ce qu'il rattache à notre région, ce qui est plus intéressant pour nous. On le voit réunissant, on appelle ça l'entrevue de la terrasse d'Alcanis. Alcanis, c'est un château où il se trouvait et où il a une entrevue qui se fait pour la préparation de la conquête de Valence, du royaume de Valence. Le royaume de Valence avait été pris par le Cid 200 ans avant, et puis il avait été perdu parce que les musulmans l'avaient repris. Et Jaume va se lancer à la conquête de Valence, mais il va soigneusement préparer la conquête, prenant des châteaux, des villes, etc., pour préparer la descente jusqu'à Valence pour faire le siège de la ville. L'histoire raconte que sur la terrasse du château d'Alcanis, le maître de l'hôpital, de l'ordre de l'hôpital, des chevaliers hospitaliers, se serait jeté à genoux devant le roi pour lui demander de prendre Valence, de faire la conquête de Valence. On ne sait pas trop si il avait besoin qu'on se mette à genoux pour prendre la conquête de Valence, s'il était déjà très lancé lui-même là-dedans. En tout cas, la scène est assez intéressante par le côté un peu familier de la chose. Hein. Le roi se promène, la main sur la hanche, et l'autre en face se jette à genoux, des courtisans sont là, on voit des oiseaux dans les arbres derrière. C'est une scène de la vie de cour à l'époque. Les conquêtes continueront d'ailleurs par également la prise de plus tard la conquête du royaume de Murcie au sud de Valence, hein, que avec des histoires avec la Castille il ne gardera pas complètement en réalité, il finira par avec un accord avec le roi de Castille par la laisser au roi de Castille. Ces conquêtes évidemment se font contre des musulmans, hein, et peut-être on va voir là maintenant les musulmans, les ennemis, hein, qu'on prend bien soin de faire en foncer. Mais c'est vrai qu'il y a à l'époque ce qu'on appelle les Almorades, qui sont des gens montant depuis le Maroc, depuis le sud du Maroc, Et dont certains d'ailleurs sont fortement matinés de noir. Hein. Donc c'est vrai que parfois certains guerriers en face devaient être assez colorés de peau. Alors voilà les personnages. Nous en avons un autre, je crois, après voilà, l'armée en route, hein, l'armée musulmane en campagne, avec les chevaux et la piétaille, hein, comme on dit, les hommes à pied qui sont derrière. Et puis, bien sûr, le but était quand même de faire de tous ces gens-là des chrétiens. Et alors, on a le baptême, vas-y, du... Alors, non, attends, c'est bon, c'est là. Voilà, ça c'est le baptême du musulman qu'on voit bien très noir, hein, cette fois-ci. C'est même pratiquement un Africain, hein, quand on le regarde de... Le baptême se fait à l'époque par immersion complète. Et donc, voilà, c'est les conquêtes, je ne parlerai pas trop, mais les conquêtes amènent évidemment pas mal de massacres, hein, et d'exil forcé. Majorque va être pratiquement vidée d'une grande partie de sa population musulmane, et à la place, on va installer des gens qui viennent du continent, notamment pas mal de gens de Montpellier et de toute l'Occitanie. Et également beaucoup de Catalans, certains. Alors, les conquêtes, finalement, vont donner une stature au roi d'Aragon, qui vont le faire appeler ensuite après, hein, par les historiens Jacques le Conquérant, hein, Jaume le Conqueridor, en catalan, on l'appelle toujours comme ça, et c'est le nom qu'il a gardé dans l'histoire, on pourrait dire à juste titre. Certaines appellations royales sont un peu tirées par les cheveux, hein, le grand, ou le ceci, ou le cela, mais en fait, là, le conquérant, on ne peut pas le garder.
À causer la première partie de la conférence des Seigne Albert Arnaud, professeur à l'Universitat du Temps Libre à Montpellier, registrée à la Bibliothèque Municipale de Metz en février de 2008.